France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, darling. Darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il était une fois une robe de chambre. Un jour, un sculpteur célèbre, Rodin, la trempa dans le plâtre, car il cherchait le moyen de donner corps à la puissance d'un écrivain célèbre, Balzac. Cette empreinte, qui n'en est pas une, ce fantôme plus vraiment blanc, tant il s'emplit de vide et d'ombre, qu'est-ce que cela peut bien être? On l'appelle, faute de mieux, étude de robe de chambre pour Balzac. C'est une grande chose pâle et drapée, au sommet de laquelle s'ouvre un col, mais elle a la tête ailleurs. Faut-il y voir l'abandon d'un corps ou une manière retorse de s'imposer par l'absence? On ne sait pas. Et voilà pourquoi on en parle tant. C'est qu'elle est comme un arrêt sur image, qui est, selon le mot de Jean-Christophe Bailly, sorti du film du temps. Alors, on doit mener l'enquête pour l'y restituer. Et puis, la vérité, c'est que Rodin a un sacré problème. Il doit façonner la gloire de Balzac. Mais Balzac était gros. Aux gros hommes, la patrie ne se montre guère reconnaissante. C'est une affaire de reconnaissance, oui, sans doute, mais aussi de ressemblance, quand un document devient un monument et lorsque le naturalisme tourne au symbolisme. Alors, déplions la robe de chambre avec les historiennes de l'art Marine Kiziel et Claire Barbillon, bientôt rejointes par la sociétaire du jour Hortense Bellotte. Et poursuivons cette enquête que Rodin mena sur l'empreinte qu'un homme fit dans son temps. Comme en parlait déjà en 1963 Cécile Goldscheider.
Il m'a semblé utile justement à propos du Balzac, qui est la dernière des grandes œuvres de Rodin, de partir du connu pour remonter vers l'inconnu. Et l'inconnu dans l'œuvre de Rodin, ce sont les maquettes, les préparations qui aboutissent à l'œuvre définitive. Ainsi, lorsque Rodin reçut la commande de la statue d'Honoré de Balzac, qu'il n'avait pas connue, il s'est préoccupé de tous les portraits connus du romancier et les portraits peints en particulier. Et non seulement les portraits peints, mais aussi la caricature, car ce Balzac que nous avons sous les yeux a été inspiré par une gravure du Charivari où la figure du romancier épanouie rappelle aussi le mot de Champfleury qui disait que lorsqu'il riait, Balzac semblait un sanglier joyeux.
Marine Kiziel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, conservatrice du patrimoine, spécialiste des rapports entre l'impressionnisme et la décoration. On vous doit notamment le très beau « Comment regarder l'impressionnisme » paru chez Azan en 2018. Vous vous intéressez à la mode et êtes actuellement en charge des collections du Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. Mais c'est, on va le voir, une pièce de vêtements un peu particulière qui vous amène dans ce studio « Corps invisible », l'exposition du musée de Rodin, dont vous fûtes la co-commissaire avec Isabelle Collet, vient de s'achever aujourd'hui même. Mais restez chez vous, parce que on peut toujours lire votre livre, votre beau livre « Dérobade, Rodin et Balzac en robe de chambre » paru aux éditions B42. Vous l'avez regardé très longtemps, cette robe de chambre, et elle s'est dérobée un petit peu à votre compréhension, c'est ça?
J'ai regardé beaucoup, effectivement, cet étrange objet. Et je l'ai regardé me regarder. Et nous nous sommes parlé de manière souvent mutique. Je ne suis pas sûre que nous soyons comprises, mais il y a eu un échange.
Un échange qui est aussi celui d'une image qui se refuse à nous. Et on ne doit pas refuser aux images le droit de se refuser à nous.
Au contraire, je crois que c'est le plaisir que je m'offre face à elle. Et celle surtout qu'elle m'offre et que j'essaye de partager.
Bonjour Claire Barbillon.
Bonjour.
Vous êtes aussi historienne de l'art, éminente spécialiste de la sculpture de la seconde moitié du 19e siècle. Vous aussi, vous avez commencé votre carrière au musée d'Orsay et vous dirigez actuellement l'école du Louvre. Vous avez beaucoup publié sur la statuaire, la monumentalité publique, mais aussi sur les canons du corps humain au 19e siècle. Tel est le titre de votre beau livre paru chez Odile Jacob en 2004. On vous doit aussi un article très intéressant sur le corps parfait de l'athlète et de l'anatomiste dans le catalogue Enjeux, les artistes et le sport de l'exposition du musée Marmottan. Seulement, le problème, on va le voir, c'est que il n'avait pas vraiment un corps d'athlète, Balzac.
Non, il est vrai que Balzac est très loin des canons qui étaient ceux que les artistes du 19e siècle poursuivaient, ou bien parce qu'ils étaient fascinés par les canons antiques, parce que, évidemment, le modèle du Doryphore de Polyclète était dans toutes les mémoires, ou même de l'Apollon du Belvédère, mais il n'était pas non plus particulièrement lié au sport. On ne peut pas le dire ainsi.
On ne peut pas le dire comme ça. D'où, effectivement, sa robe de chambre qui est devenue, depuis le 18e siècle, je dirais, la panoplie de l'écrivain, qui est le clerc de la modernité. Alors, comment l'appeler cette robe de chambre qu'on dit être une étude, Marine Kiziel?
C'est sans doute la première étape que de chercher à nommer. C'est peut-être aussi là où la dérobade commence. Et je crois qu'il faut l'accepter. C'est une œuvre qui n'a pas de titre.
Oui, parce que le titre qu'on lui donne, là, c'est
vraiment... C'est un titre forgé, qui est un titre d'usage, forgé précisément par les historiens et historiennes de l'art et le musée Rodin pour désigner ces petits. Il faut les retrouver dans un musée.
Oui.
Et c'est donc une chose, un objet, un artefact, un reste, une archive, un document. Et du coup, à partir de là, un objet qui fait réfléchir parce qu'il échappe. Et je crois que c'est une de ses chances à l'idée même, au départ, de chef-d'œuvre.
Alors, il faut dire que dès 1916, Rodin fait entrer dans le patrimoine muséal français non seulement son œuvre, mais les archives de son œuvre, les archives de sa création, création du musée Rodin en 1919, et puis les 6000 plâtres conservés à Meudon. Et là, Claire Barbillon, on a avec, bon, appelons-la une étude, un objet qui fait partie des archives du processus de création. Comment on pourrait, au fond, le définir dans son historicité?
Exactement. Il y a mille manières d'envisager le processus de création d'une sculpture. De toute façon, la sculpture n'est pas une œuvre unique, au sens où on parle d'original en peinture. La notion d'original en sculpture est très sujette à caution, mais le processus créatif suppose des étapes. Et parmi ces étapes, il y a des objets un peu étranges qui relèvent, comme vous le disiez tout à l'heure, ou bien du monument, ou bien du document. Et là, on a finalement un très bel exemple du passage de la fluidité entre le statut de document, d'archive, et finalement le statut d'œuvre achevée, de monument, de chose qu'on regarde en elle-même, pour elle-même.
Oui, parce que depuis 1960 environ, on la regarde de plus en plus, elle fait partie des collections du musée Rodin, et vous n'avez pas voulu non plus la monumentaliser, Marine Kiziel, parce que cette écriture qui s'enroule autour de cette absence, parce qu'il va falloir effectivement essayer de comprendre comment on fabrique un tel objet, une chose, appelons-la comme ça, eh bien, au fond, dans votre livre, vous cherchez d'une certaine manière à ne pas la remplir trop vite de mots.
Exactement, parce que je crois qu'il y a un tort à toutes les prescriptions. Et l'autorité que peut conférer le fait d'écrire, le fait d'exposer, peut sembler dire à celles et ceux que l'on invite à regarder la chose, l'œuvre à leur tour, qu'il y a là quelque chose qui est digne d'être regardé. Et j'aime à penser que peut-être c'est nous qui sommes dignes d'être regardés par elle, et que c'est surtout en fait dans cet échange, dans cette incertitude, dans ce dialogue, c'est-à-dire aussi dans la valeur de l'intervalle, et non pas seulement des bornes qui disent des certitudes, qu'il y a quelque chose à faire, à la fois dans le travail qui est le nôtre dans les musées de médiation et de transmission, mais aussi dans le travail qui est le nôtre, historien et historienne de l'art, au moment de regarder ses œuvres, de les commenter et de faire jouer une société autour d'elle.
Sauf que là, on est dans un objet qu'on peine à nommer aussi parce que sa fabrique n'est pas si claire que ça. On dit c'est un moulage, mais non, c'est pas exactement un moulage parce qu'on n'a pas l'empreinte de la robe de chambre. Alors je sais qu'il y a des archives photographiques de cette création, mais elles sont, au fond, vous l'avez vraiment compris, Marine Kiziel, que quand vous l'avez reconstituée avec les formes et les méthodes de l'archéologie participative, hein, c'est ça ?
Oui, les méthodes de l'archéologie expérimentale, elles nous ont servi, puisque en travaillant, j'ai autour de cet objet interrogé 1000 collègues, interrogé les livres, interrogé les archives, comme vous le disiez. Déjà, effectivement, il n'y a pas de moule, c'est-à-dire de creux du moule que Rodin aurait gardé dans ses fonds et donc aujourd'hui dans les réserves de Meudon, pour dire comment fut fait le plein de cette forme. Pour une raison très simple, c'est que, dans un terme un peu jargonnant mais très explicite, on parle ici non pas seulement d'un moule à bon creux, c'est-à-dire d'un moule que l'on aurait eu la capacité de réutiliser, mais d'un moule à creux perdu. Et le mot est important, la perte est au cœur de cet objet. Perte de Balzac, perte de repères, perte peut-être de cette robe de chambre plus ou moins mythique dont nous reparlerons, j'imagine, mais aussi, voilà, perte du moule dans le processus même de création. Ce qui amène à voir comment ce processus, et Claire Barbillon a commencé à le dire, est un processus partagé. L'atelier du sculpteur, c'est le sculpteur, avec un grand S, et en l'occurrence un grand R, Rodin, mais c'est aussi une armée de praticiens autour de lui qui aident, qui font, qui disent, qui sans doute participent à trouver des solutions. On s'imagine le maître arrêtant la main, mais il y a bien plus que cela.
Oui.
Et cet objet-là, en deçà du statut d'œuvre, et c'est heureux, dit combien de participations invisibles, jusqu'à même celle de l'artiste lui-même, sont à l'œuvre dans la création d'un tel objet.
Et vous le dites, Marine Kiziel, c'est un objet bricolé, parce que on peut aussi rappeler quelque chose d'évident, mais qui est d'une certaine manière lié à cette matière du plâtre, qui est une matière difficile, qui est une matière lente et longue. Il ne faut pas croire qu'on moule sur le vif et que c'est fait. C'est très long à saisir le plâtre. Donc, Claire Barbillon, il y a aussi cet imaginaire du 19e siècle face à l'empreinte, face au moule, et on comprend très bien que, bien sûr, qu'il y a cet objet qui consiste effectivement à tremper une robe de chambre voilà, dans le plâtre et ensuite à la laisser sécher sur un corps plutôt frêle, celui-là, mais aussi tout un travail, tout un façonnage.
Oui, c'est sûr. Vous venez de parler d'imaginaire. Et moi, cette œuvre, curieusement, par l'absence de l'effigie, qui fait tout son mystère, parce que l'absence de l'effigie à l'intérieur de la robe de chambre, là où on l'attendrait, ça en fait un anti-monument. Et cette œuvre m'évoque, à cause de cela, les moulages qu'on réalisait au moment où, juste après la mort des gens,
oui.
C'est-à-dire ces derniers portraits qui ont complètement disparu d'aujourd'hui, mais qui jouaient aussi avec l'absence, avec la mimétique. Et là, il y a une sorte de transformation en creux avec la robe de chambre qui refuse complètement, justement, la présence de la représentation mimétique, mais qui dit en même temps une présence et une absence référentielle tout aussi extraordinaire que le laissaient justement ces moulages sur nature, si étranges, qui finalement étaient
sur le vif.
Ce qui restait.
Mais aussi pour les empreintes mortuaires. Écoutons ce qu'on en disait au journal télévisé des actualités françaises le jeudi 18 septembre 1952, comment on pose pour la postérité.
À Saint-Germain-des-Prés, le sculpteur Weber, spécialiste des têtes d'artistes, vient d'effectuer le moulage du visage de Virginia, l'une des célèbres Peter Sisters. Sacrifiante à la postérité, elle s'est laissée enduire de plâtre sous les yeux intéressés d'un témoin de poids, Gabriello. Et après quelques minutes de patience, la blanche réplique des traits de Virginia apparaît immortalisée à tout jamais. Mais on ne moule pas que les visages, et ces mannequins que l'on pourrait croire anonymes sont tous célèbres par les bustes dont ils proviennent, tels celui de Caroline Chéry. En effet, une nouvelle technique consistant à recouvrir le buste d'une multitude de bandelettes de papier permet de reconstituer au millimètre près la silhouette qui vous permettra, madame, de posséder votre double, ce qui ne manquera pas d'être utile à celle qui décide de faire de la couture en chambre. Fini les à peu près, fini les vestes trop larges. Une coupe parfaite est maintenant à votre portée. La seule possession de votre propre mannequin vous autorisera désormais, madame, à vous habiller vous-même sur mesure.
Fini les à peu près, hein. Tous les mots sont...
C'est fini. Ouais, ça fait un siècle, en fait.
Ouais, c'est ça. Parce que vous avez, justement, c'est ça qui est passionnant. Vous êtes aussi une historienne de la mode, Marine Kiziel. Vous avez, pour, notamment, cette exposition, Corps invisible, eh bien, amassé cette documentation extraordinaire sur les tailleurs. C'est-à-dire ceux qui façonnent, la silhouette. Et d'ailleurs, l'a-t-on assez remarqué, on dit tailleur de pierre, comme on dit tailleur de vêtements.
Et c'est peut-être là qu'il y a un peu de supercherie aussi, puisque Rodin n'a guère taillé la pierre, et, oui. Et c'est ça, c'est praticien justement. Mais ceci étant dit, oui, j'ai suivi les pas d'un de vos sociétaires, pour tout dire, Manuel Charpie, auprès de qui j'ai eu la chance de travailler il y a quelques années, et je suis allée voir à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle combien de centaines, et c'est vraiment des centaines qui frisent le millier, de brevets ont été déposés par les tailleurs breveteurs du 1er 19e, et qui sont autant d'inventions, tout à fait fascinante, comme le 19e en invente, visant à mesurer tous les dimensions du corps le plus précisément possible, à un moment où, après la césure révolutionnaire, les tailleurs cherchent à s'établir comme une corporation d'hommes qui pensent, et pas seulement qui font, c'est l'esprit contre la main, s'inventent en géomètres, s'inventent en mathématiciens, et développent tout à la fois des traités et des objets, des instruments, pour mesurer les corps, c'est-à-dire pour aller au plus près du sur-mesure. Et ce faisant, ce qui est fascinant, c'est qu'ils constituent une sorte de base de données extraordinaire qui va permettre que, en affinant le rapport poids-taille, on aboutisse, pour aller très vite, au-delà même de ce que l'archive ici nous faisait entendre, à l'établissement des gradations, c'est-à-dire de 5 tailles pour tous, le small, oui, le small, large, le XL, que nous portons.
Et aussi le IMC d'ailleurs, qui nous fait tant de mal aujourd'hui, ça a été inventé à ce moment-là.
Absolument. Et sur le chemin, le perfectionnement du moulage sur nature chez les tailleurs et les couturières arrive à ce que disait l'archive, c'est-à-dire l'idée même qu'on va pouvoir faire son propre mannequin, mannequin couture, pour se réaliser des vêtements. Mais il y a là donc une tension, qui est d'ailleurs aussi celle de Rodin, entre l'idéal des formes, par un sur-mesure qui vous améliore, et puis la réalité des corps qu'il va falloir prendre en compte pour tenter de la transformer.
Tailleur, couturière, Claire Barbillon, on est bien dans vos thèmes aussi, des canons du corps au 19e
siècle. C'est-à-dire que quand Marine parle de tailleur et de base de données extraordinaires de mesure, ça me passionne parce que ça rejoint en fait des recherches qui étaient celles de scientifiques à la même époque. Il y avait même une profession qui s'appelait l'anthropomètre.
Oui.
Et l'anthropométrie, c'est le titre d'un ouvrage publié en 1870 par un Belge, Adolphe Quetelet, dont le livre de Marine Kizel d'ailleurs fait mention pour le début de sa carrière, mais qui, après avoir pendant des décennies rassemblé des mesures du corps humain, finalement produit quelque chose d'assez étrange en même temps qu'effrayant, qui est une théorie de l'homme moyen. À partir de toutes ces mesures de corps, il établit une sorte de courbe de Gauss qui lui permet de dégager une sorte de norme qui va donner, quand elle se traduit dans le domaine de la création artistique, des types humains.
C'est ça.
En fait, c'est une façon d'échapper à une sorte de dualité qui court aussi tout au long du 19e siècle, qui est la suivante, une sorte, vous voyez, de balancement dialectique entre, finalement, le modèle antique, la perfection des nombres, le canon parfait, celui que Léonard de Vinci a illustré en lisant Vitruve, d'un côté, donc l'idée d'un beau absolu qui aurait résidé une fois pour toutes en Grèce au 5e siècle, et de l'autre côté, le naturalisme, qui consiste à s'intéresser au plus précis des corps, au plus près des corps individuels, singuliers, voire déformés, et ben il y a une troisième voie qui est celle de la mesure et qui conduit à cette théorie de l'homme moyen.
Et c'est là, d'une certaine manière, où on retrouve Balzac qui, dans sa Comédie humaine, établit aussi le bestiaire des différences et des divergences corporelles, qui est lui aussi passionné d'ailleurs par la physiognomonie, hein, qui pense pouvoir lire l'âme par les traits du visage. Mais il faut y revenir, dans ce cas-là, Marine Kiziel, à la commande, 1891. C'est-à-dire que, voilà, Balzac doit avoir dit la Société des gens de lettres sa statue à Paris. Après tout, ça fait maintenant 40 ans qu'il est mort. Il y a d'autres écrivains. Il n'y a pas lui. C'est scandaleux, dit Zola, qui à ce moment-là préside la Société des gens de lettres. Sauf que Balzac, sa corpulence va finir par poser un problème. Donc, comment ça se passe et pourquoi, à un moment donné, Rodin, qui a d'emblée expliqué qu'il ne voudra rien commencer sans avoir tout documenté, pourquoi se trouve-t-il un jour en Touraine à documenter l'empreinte du corps de Balzac et qu'est-ce que le tailleur vient faire dans cette histoire ?
Rodin se voit commander par la Société des gens de lettres, vous l'avez dit, en 1891, une statue de Balzac, s'engage à la livrer en 18 mois, avant qu'elle ne soit livrée à la fonte, et mettra 7 ans, longues années de labeur, un peu de souffrance et d'incertitude assurément, avant de réussir à aboutir à un monument, aujourd'hui considéré comme spectaculaire. Mais au moment où Rodin se met en route, il a cette méthodologie naturaliste dont on parlait il y a une seconde, et qui consiste à rassembler des documents, à se rendre sur les lieux où ont vécu celles et ceux auxquels il pourrait s'intéresser, et en l'occurrence, Rodin prend son bâton de pèlerin, se rend d'abord auprès des images en Belgique, c'est un collectionneur fou, monomaniaque de Balzac, qui s'appelle le vicomte Spolberge de Lovenjoul, et puis ensuite se rend en Touraine, et il cherche dans la rue un corps qui ressemble, par le type, au corps qu'il s'imagine être celui de Balzac.
Là, il tombe sur un chartier.
Les modèles du peuple, évidemment, acceptent de poser nus, et moins ceux qui peut-être auraient été les amis ou les semblables de Balzac, et de Balzac mort, on l'a dit. Et pour retrouver le corps, au-delà de la projection que lui en fait sur le corps d'un chartier, pour retrouver une sorte de vérité et de relique donc, il se rend, et c'est une chose que j'ai découverte, je ne suis pas la première, mais que je suis la première à emprunter, découverte en regardant les archives de Rodin et notamment la presse, il se rend chez un tailleur à Saché, en Indre-et-Loire, un tout petit tailleur de 16-17 ans quand il travaillait pour Balzac, qui est un homme donc de 50 ans de plus, qui va lui refaire une chose, et là on peut le dire aussi comme ça, puisque la presse, qui s'intéresse à Rodin, et qui ne cesse de parler de cette entreprise qui n'aboutit pas, quand M. Rodin livrera-t-il son Balzac, la presse en parle tous les ans avec une sorte d'inflation qui dit la puissance mythique en fait de cet élément qui m'a passionné. La première année, la presse dit M. Rodin est allé chez le tailleur de Balzac lui faire faire une redingote. La seconde, une redingote et un gilet. La troisième, une redingote, un gilet en pantalon, un costume, un deuxième costume, et puis on entend cela jusque dans le Herald Tribune à New York ou dans la Tribune de Genève. Et en fait, ce que cela veut dire, c'est que Rodin est allé chercher, c'est fascinant, l'intérieur d'un corps disparu par l'enveloppe qui le saignait, c'est-à-dire retrouver le plein désormais vide à travers cette chose si fragile qu'est le textile, dont on le sait nous, il va s'emparer, mais au bout de 4 ou 5 ans de guerre lasse de travail, pour livrer cette fameuse étude qui nous rassemble.
Et le tailleur, il avait les mensurations de Balzac en tête.
Alors le tailleur, il prétend les avoir en tête, les donne à un journaliste que j'aime beaucoup, Adolphe Brisson, qui est un homme érudit qu'on a trop peu regardé et analysé, et avec la maison d'Ormeuil, qui est aujourd'hui une maison à la fois du commerce du tissu et puis de tailleur, nous avons tenté de refaire la redingote de Balzac aux dimensions données par le tailleur. Et il faut croire que le tailleur avait bonne mémoire,
oui.
Puisque cette redingote que nous exposons au musée Rodin, elle ressemble en tout point, et c'est passionnant, à la caricature, c'est-à-dire à la charge qu'on a fait du temps de Balzac, de ce fameux Balzac. Regarder ainsi comment le réel et la caricature se ressemblent, c'est se demander si le corps est caricatural, si la charge ici ne déforme pas. Et c'est tombé dans cet abîme qui était celui de Rodin.
Et il faudra bien d'ailleurs tenir compte de la caricature pour faire un monument à Balzac qui se voit du bas et donc avec des déformations que Rodin évidemment tente de restituer. Ce qui est quand même extraordinaire, Claire Barbillon, quand on comprend le détail de cette histoire, c'est de saisir, vous avez beaucoup travaillé sur ce que Maurice Agulon appelait la statuomanie au XIXe siècle, comment c'est une affaire publique que cette commande qui n'arrive pas, et que non seulement les journaux s'en inquiètent pour un petit peu ricaner sur les lenteurs de l'artiste, vieux thème de la Renaissance, mais d'une certaine manière que ça devient au fond une affaire politique.
Mais le XIXe siècle accorde à la stature publique un rôle tout à fait éminent. Et ça, c'est déjà sensible dès la première moitié du siècle, mais encore davantage quand Baudelaire, par exemple, dans le salon de 1859, alors qu'il avait précédemment déclaré que la statuaire était ennuyeuse, ça c'était quelques années auparavant, et en 59, il livre un texte absolument fascinant sur le rôle politique et social, sur le rôle pédagogique même, de la statuaire publique. Un texte que je ne saurais paraphraser, mais qui invite les passants à regarder, pour recevoir une leçon de civisme, ces grands hommes en montant leur regard « sursum ad sidera ». Et ça, ça dit finalement toute la valeur, en fait, et la valeur unique, je dois dire, parce qu'il n'y a pas de peinture qui incarne ce rôle éducatif, aussi bien que la sculpture au XIXe siècle.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. Standing on the stage of fear and self-doubt, it's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind.
Marine Kiziel, vous nous avez expliqué comment, contemporain de Zola, au fond, Rodin eh bien, menait son enquête naturaliste et vous, dans votre livre Dérobade, vous enquêtez sur cette enquête. Et ce qui est intéressant, c'est le moment où il arrête, en fait, où d'une certaine manière, il y a là, sinon une impasse, du moins une complication inutile que d'aller chercher... Alors évidemment, il y a la question de savoir comment il va être habillé, comment on va habiller cette idée avec un costume ou avec cette fameuse robe de moine ou robe de chambre. Mais vous montrez que le moment de la robe de chambre, qui nous arrête dans cette émission, c'est le moment où, d'une certaine manière, le naturalisme s'arrête et commence autre chose, qui va être l'abstraction.
Qui va être le symbolisme, avant d'être l'abstraction, pour redonner du temps long au déploiement des arts. Mais oui, qui va être le moment d'ailleurs où Rodin ne satisfait pas les gens de lettres, parce que il s'intéresse à un corps qu'il veut habiller d'une redingote et qui a un corps gros et qui est donc disgracieux, et les gens de lettres sont confondus devant cette chose graisseuse, le mot est posé. Et dans le même
ils
temps,
savent pas dire le mot d'ailleurs.
Non, ils ont du mal, mais ils le sentent.
Mais en fait, il est gros. Quoi.
Et c'est ça. Et c'est d'ailleurs les inexistants foucauldiens. Ce que vous ne nommez pas, c'est ce que vous refusez le plus. Et par ailleurs, en fait, il fâche Zola. Rodin fâche Zola. Et peut-être que la rupture, on ne l'a pas assez nommée à cet endroit-là. Zola est étonné, et d'ailleurs la presse se moque de lui. Monsieur Zola livre 10 pages par jour et ne comprend pas que Monsieur Rodin ne livre pas une statue pour demain. Mais effectivement, peut-être que la démarche qui d'abord a été la leur et qui a donné ce pas de deux si efficace entre le statuaire et son commanditaire, président de la Société des gens de lettres en 91-92, et a abouti à un moment où Rodin va se délester du document, à une rupture, qui est d'ailleurs presque un désaveu pour le chantre du naturalisme qui est Zola, et un Zola qui se voit délaissé par d'autres, Huysmans, qui lui aussi bascule vers davantage de suggestions et d'expressions de l'intériorité. Et c'est ça que Rodin va aller chercher dans sa manière de représenter Balzac, son absence, ou du moins l'idée de lui.
Oui, donc ce qu'on doit voir aussi dans cette robe de chambre, cette étude, de la robe de chambre, Claire Barbillon, c'est ce point d'arrêt, cette impossibilité qui lui est effectivement exprimée par la Société des gens de lettres qui refuse ses premiers modèles. Et à ce moment-là, il faut quand même raconter la fin de l'histoire, à ce moment-là, Rodin prend une autre voie, qui est, comme le dit Marine Kiziel, celui du symbole. Il va trouver une solution monumentale pour donner à voir l'empreinte que Balzac a fait dans son temps et sa puissance de créateur du monde. C'est le Balzac qu'on a fini par connaître, mais qui a été long et lui aussi à façonner.
C'est intéressant d'ailleurs de faire du Balzac une sorte d'icône du symbolisme, dans la mesure où, quand Moréas définit le symbolisme, il parle de vêtir l'idée d'une forme sensible. Et vêtir l'idée d'une forme sensible, est-ce que ça n'est pas une rencontre incroyable de formules quasiment mimétiques avec ce que Rodin réalise, sans doute sans se référer explicitement à Moréas, sans doute sans prendre lui aussi de manière, consciente le chemin du symbolisme. Mais malgré tout, c'est... un pas extraordinaire franchi. Et quand vous avez parlé tout à l'heure d'abstraction, je pense qu'effectivement, c'est un petit caillou sur le chemin qui va conduire à l'abstraction, parce que c'est le triomphe de la forme sur tout discours.
Dans « Comment regarder la sculpture », le livre que vous avez fait paraître en 2017 chez Azan, Claire Barbillon, on apprend qu'en 1908, Auguste Rodin fait appel à Edward Steichen, photographe américain sensible à son œuvre sculptée, et parce qu'il veut photographier son monument à Balzac. Il pressent que des prises de vue effectuées de nuit pourraient donner à son œuvre une autre vision. Et ça donne, je crois, la mesure de ce qui est finalement la vision finale de Rodin, c'est-à-dire un monument, comment vous le qualifieriez ? Un monument à la puissance de création elle-même ? Dans son déséquilibre, dans le désajustement entre le corps, le vêtement et la tête.
C'est vrai que c'est un peu paradoxal de la part de Steichen de prendre cette photo de nuit, et ça contribue à faire triompher l'idée sur la matière. Finalement, la matière disparaît, et c'est l'idée de la puissance créatrice dans une sorte d'idée pure, finalement, qui éloigne considérablement le Balzac de toute rhétorique monumentale.
Oui.
Là, vraiment, il y a une rupture avec ce qu'incarnait un monument dans l'espace public.
Est-ce que je me trompe, Marine Kiziel, si je dis que on peut lire aussi votre livre des Robades comme la manière qu'une historienne du 19e siècle comme vous, c'est-à-dire d'un 19e siècle qui est pétri de monumentalité, la manière dont on prend congé au fond de cette névrose monumentale, et on accepte l'idée que, voilà, par une ruse de l'histoire, c'est l'absence d'un corps qui en impose le plus au siècle, et que votre écriture elle-même tourne autour de ce mystère qui est celle de l'idée.
De l'idée et de l'image. Et si la forme émerge, que le corps se dissout, on revient peut-être à Bailly et à l'imagement, cette manière dont les images se font corps devant nous et dont nous cherchons à les appréhender.
Dans leur mystère aussi.
Dans leur mystère et tout simplement dans leur étang. Parce que je pense que faire de l'histoire, c'est ne pas seulement regarder les mythes et les mystères, mais aussi regarder la réalité de ce que nous observons, regarder une société et regarder des édifications légendaires. Quand Rodin fait photographier par Steichen le Balzac, il y a de fortes chances que, tel un Rastignac sur les hauteurs de Paris, et le Balzac se détache sur les hauteurs d'un ciel au-dessus de Meudon, il cherche un peu à dire que Balzac, c'est lui, c'est-à-dire en triangulant par l'idée du grand homme. Et on est quelques années avant sa mort, avant sa grande damnation, avant la création du musée Rodin à sa gloire. Et mon écriture dans ce livre, telle que, du moins, j'ai tenté de la façonner, c'est une écriture de modestie, qui regarde l'histoire d'en bas, qui regarde les objets de face et assurément pas de haut, et qui ne les laisse pas davantage nous regarder de haut. Et c'est là la chance qu'on a avec la robe de chambre. Son regard se dérobe, on l'a dit, elle n'a pas de tête, mais aussi elle laisse advenir les hypothèses et les interprétations tout en les déjouant, parce qu'elle empile les mythes, elle empile les temporalités, elle empile les sociétés. Et vous avez parlé de la Renaissance tout à l'heure, et on pourrait parler du Moyen-Âge, on a parlé de l'Arlic, et en fait, on est vraiment dans le 19e, qui est un grand millefeuille d'accrétions historiques, parce que dans la perte de repères d'après la Révolution, on ne sait jamais également exactement où l'on se tient.
Et puis reconnaissons que nous voyons aussi cette œuvre depuis notre propre perte de repères. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a quelqu'un qui a été important pour vous, là, en tout cas, la lecture de Paul B. Preciado. Écoutons-le, c'était l'invité de Sonia De Villers sur France Inter en décembre 2022.
Vous êtes pour déboulonner les statues, toutes les statues de ce passé colonial. Vous avez d'ailleurs une idée très drôle, vous seriez pour inventer une espèce de grande nécropole de toutes ces statues déboulonnées, on les mettrait ensemble, voilà.
Bah, c'est-à-dire, de toute façon, que j'ai dit que toutes les statues qui ont été créées et érigées par les pouvoirs, à un moment donné, doivent tomber. En fait, moi,
doivent tomber symboliquement.
Symboliquement. Je suis là, je suis juste un plombier de concept. Je suis un philosophe. Hein. J'arrive ici et je dis, bah voilà, ces statues tombent. Donc, il faut arrêter de s'opposer à la réalité. Il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de nous arriver et peut-être en fait accompagner ces mouvements des transformations collectives.
Parce que dans votre nom, vous avez gardé le B.
Oui.
Le B de l'époque où vous étiez genré
au féminin.
Oui. Vous avez gardé le B de Béatrice.
Bah, j'ai même gardé en fait mon nom légal et Paul Béatrice en fait.
Vous êtes appelé Paul B. Preciado.
Oui, tout à fait. Mais
donc vous avez gardé une trace de votre histoire.
C'est
et dans
très
ce
important
monde,
pour moi.
C'est ouais. important pour vous.
Ouais.
Et dans ce monde qu'on va reconstruire, il faut garder une trace.
Il y aura toujours des traces. De toute façon, nous vivons déjà dans les ruines du capitalisme. C'est ça en fait. Nous vivons dans les ruines du patriarcat. Le seul problème, c'est qu'il y a des personnes qui s'y attachent, si vous voulez, à vouloir se définir par les ruines. Moi, ça me paraît extraordinaire, par exemple, qu'on continue aujourd'hui à vouloir se définir en tant qu'hétérosexuel ou homosexuel. C'est des notions complètement de la psychopathologie du 19e siècle.
Ah, bon.
C'est des notions obsolètes et totalement, c'est des ruines épistémiques. Si vous voulez vous accrocher à ces ruines
on
épistémiques
et continuer. On se dit, on a du boulot.
Ah, bon, voilà, mais libérez-vous, en fait.
Élisez Dysphoria Mundi.
Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Mais oui, lisez Dysphoria Mundi, un essai publié en 2022 où Paul B. Preciado s'interrogeait sur ce qu'il appelait la loi de la gravité démocratique. Toutes les statues du pouvoir sont faites pour être renversées et pourquoi s'en indigner puisque, au fond, une statue, écrit-il, façonne un corps qui compte. Nous avons besoin d'un iconoclasme lent et profond et nous devons aussi collecter les fragments plus puissant que le corps entier. Quand vous avez découvert ce texte que vous qualifiez d'inattendu, Marine Kiziel, votre travail s'en est trouvé à la fois relancé et un peu reformulé, non ?
Ma joie était complète de trouver chez Preciado des pages sur la sculpture qui sont des pages de côté, comme on ferait des pas de côté, et qui m'ont amené à en faire et en fait à aller travailler la manière dont tout se tisse et dont récemment les sculptures sont tombées, ont été mises à bas, ont été abîmées, ont été aussi prises à partie, la manière dont d'ailleurs elles nous ont également rassemblées, place de la République au moment d'attentats qui nous ont...
C'est comme ça que commence l'exposition d'ailleurs, par ces
exactement,
images.
Exactement, par des statues qui tombent et des statues qui rassemblent, parce que comme Preciado le dit, je crois qu'à chaque fois qu'une statue tombe, c'est un espace de resignification qui s'ouvre. Et cette resignification, cette volonté aussi de réinterroger les termes d'un contrat social autour de la statuaire quand on l'a fait tomber, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, mais aussi en France, en Espagne, en Angleterre, à la faveur du mouvement Black Lives Matter ces dernières années. Et Black Lives Matter, c'est les corps qui comptent. Un
oui.
titre de Judith Butler. Et pour nous qui parlons d'hommes, les tailleurs, qui comptent les corps, qui les mesurent au 19e siècle, eh bien, on a là plein de questions à poser à la statue publique et à notre temps.
Et vous, Claire Barbillon, vous êtes une historienne de cette monumentalité du 19e siècle qui commence effectivement à trembler sur ses bases. Et donc, ça vous interroge également. Vous aviez, quand on préparait l'émission, l'envie d'en parler. De cette question-là qui, d'une certaine manière, réactualise notre regard sur cette statuaire qui, pourquoi ne pas l'avouer, on regardait très peu, au fond.
En fait, ce que je pense, c'est qu'il n'y aurait pas d'iconoclaste, de statuophobie aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de statuomanie. Mmh. C'est-à-dire que, à mon sens, si les statues tombent, c'est qu'en fait, on oublie les statues pour penser aux personne dont l'effigie est représentée sur les socles. Le problème dans toutes ces destructions, dans cet iconoclasme, c'est qu'il n'est finalement que la suite de l'iconoclasme religieux des siècles au cours desquels il y avait donc destruction de l'objet parce que on voulait se libérer de la puissance religieuse qui était contenue dans l'objet. Il me semble, si vous voulez, que le grand oublié dans l'iconoclasme contemporain, c'est le sculpteur. Y a une chose que j'aime à dire, c'est que quand on a lu le récit vraiment passionnant de toute l'histoire de la statue de Colston à Bristol,
oui.
Quand on a compris les différentes étapes qui ont conduit à abattre cette statue, à la repêcher, à l'exposer dans un musée couverte des tags et de la peinture dont on l'avait recouverte. Il y a un nom que j'ai cherché dans toute la presse anglaise et française à ce moment-là.
C'est le nom de l'artiste.
De Cassidy. Mmh. Cassidy, qui était un sculpteur honorable d'un mouvement qui s'appelle The New Sculpture, qui était un peu aux confins du naturalisme et du symbolisme en Angleterre à la fin du 19e siècle, et qui n'était même pas prononcé. Et c'est la même chose pour Vital Dubray, quand la statue de Joséphine de Beauharnais a été progressivement décapitée, puis détruite, pour des raisons politiques qu'on peut parfaitement analyser. Mais c'est l'invisibilité du sculpteur ne peut pas me laisser indifférente.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, le mois dernier, peut-être vous êtes-vous échiné à trouver une idée originale afin de personnaliser vos cartes de vœux. Vous auriez pu vous inspirer de la carte que l'écrivain Pierre Loti adressa en 1892 à ses pairs de l'Académie française, peu après son élection. L'écrivain y figure bras croisés et mains sous les aisselles, soulignant le triangle de sa carrure et les courbes de ses biceps, le visage de face et le corps de trois quarts. Cette position permet à l'un des pans du minuscule ruban blanc qui lui ceint les reins de voiler opportunément l'unique partie de son anatomie ainsi dérobée à la vue du spectateur. Pour le reste, disons-le franchement, le nouvel académicien se présente à poil. Encore que, en fait de pilosité, sa belle moustache en croc y contraste avec un corps intégralement glabre, modelé par la discipline quotidienne d'exercices gymniques, que l'on ne nommait pas encore bodybuilding, et dont Loti fut l'un des tout premiers adeptes. Sous ce portrait sans habit vert, l'auteur de « Pêcheur d'Islande » fit figurer de sa main et à la plume cette mention « Ça, c'est pour montrer les baleines de mon légendaire corset ». Lors de son élection, en effet, une rumeur avait couru parmi les membres de l'auguste assemblée. Selon ceux-ci, la taille de guêpe de l'impétrant et l'allure de pyramide inversée de son torse auraient trahi l'usage d'un artifice, le corset. Artifice qui aurait constitué une entorse vis-à-vis des normes du masculin, ces normes dont les adversaires de Loti reprochaient à certains de ses romans, intitulés « Mon frère Yves » ou « Matelot », de s'écarter un peu trop visiblement. Ainsi va le corps écrivant dans la République des Lettres, cher Patrick. Lorsqu'on n'y est pas trop gros pour être présentable, on y est trop mince et trop musclé pour être honnête. Ce qui est magique avec cette image, c'est la manière dont Loti y élève l'excès de zèle au rang des beaux-arts. Face à l'injonction qu'on lui oppose d'être un homme, un vrai, il se plie à la règle, tout en dérogeant effrontément à une autre obligation, celle qui attend des académiciens qu'ils se présentent plutôt habillés. De même, il balaie d'un revers de main les insinuations sur ses mœurs en incarnant l'idéal masculin, en l'incarnant si parfaitement qu'on n'est plus très loin de la pin-up, et son portrait défie le spectateur de demeurer de marbre devant tant d'insolence offerte. Et puis, en donnant à son corps cette allure de vérité à la fois nue et sculptée, vérité dont on ne saurait dire si elle sort du puits ou de la salle de sport, il affole l'opposition entre authenticité et artifice. Tout comme, dans sa vie et son œuvre, Loti a pu à la fois revendiquer de faire souffler, je cite, « le grand air de dehors » et multiplier les masques jusqu'au vertige. jusqu'au point où l'exotisme orientaliste verse dans le drague pur et simple. Il faudrait dire un mot ici des dizaines de photographies où Loti figure travesti en Ramsès, en Turc, en paladin ou en guerrier arabe. Dans un beau portrait paru dans le journal Sud-Ouest, à l'occasion de la réouverture de sa demeure à Rochefort, j'apprends que Pierre Loti, insatisfait de sa petite taille, déclarait volontiers « Je ne suis pas du tout mon genre ». Cher Patrick, je ne vais pas me lancer dans une dissertation sur le genre, d'Aristote à Judith Butler, simplement prodiguer à vos auditrices et auditeurs cette recommandation. En 2025, quoi qu'il arrive, ne soyez pas votre genre.
C'est entendu, Mathieu Pot-Bonneville, philosophe, directeur du département culture et création du centre Pompidou, Marine Kiziel. Cette histoire, qui est aussi l'histoire, ben, disons-le, de la grossophobie, qui, d'une certaine manière, naît à ce moment-là. Au temps de Balzac, on pouvait avoir le ventre, en tout cas pour les hommes, le ventre du gastrophore, celui qui est le bon vivant. Et signe de puissance. Et manque de bol pour lui, quelques années plus tard, c'est plus possible.
C'est-à-dire qu'on, pour être un grand homme, à la fin du 19e siècle, on ne peut plus être un gros homme et que Balzac n'a plus le droit de se ressembler. C'est donc dire exactement combien façonne et transforme les corps, les perceptions qu'on veut bien en avoir, qui sont parfois limitantes et qui nous invitent effectivement à toutes les fluidités.
Oui.
De genre et de corps et d'habits et d'identité et d'image.
Et ça, Claire Barbillon, c'est important parce que vous êtes, on l'a dit, l'historienne de ces canons du corps. Et dans votre dernier essai, on l'a dit, sur l'athlète, il y a un rapport entre justement le corps mesuré et ce corps de l'athlète qui est lui-même, d'une certaine manière, à la recherche du canon parfait.
L'athlète est à la recherche du canon parfait, mais ce canon reste genré. C'est-à-dire, comme Marine Kiziel le disait, l'homme du début du 19e siècle pouvait être gros, la femme ne pouvait déjà plus l'être.
Oui.
Il y a une différence considérable. Et l'athlète féminine ne va pas pouvoir développer ses muscles de la même manière que l'athlète masculin. Il reste même dans ce dressage du corps auquel se plient finalement les sportifs à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il reste une contrainte supplémentaire pour la femme qui doit rester gracile. Et ça, c'est une contradiction en fait qui aujourd'hui, je l'espère, a disparu.
Bring a rosa. Yo, hola, 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 okay, hola. You see me looking pretty every time you scroll up. My God, to let the blicky hit you if you stroll up. Now put your hands up, it's a hola. Run me the money, cause I be the baddie beat. Barbie tanks, banging body beat. Everybody beat on my D. Yo, I gotta be in reality. Suck a D if you doubted me. Back in the back, back in the back, back in the back, back in the back. Who on Barbie D? Who on Barbie D? Everybody, who you gotta see? Honestly, on my Odyssey, I'm the baddest beat. I don't even know how to speak. Hat to the hat to the back. See, a bitch got more coins than the game room. So we ain't never hating in the shade room. See, I keep my sons in the playroom. So me and you ain't never in the same room. I tell him eat the cookie cause it's good form. And when he eats the cookie, he got good form. He know I don't never cheat because I'm good to him. My God, to have his baby nurses yelling push for him. You see, I let him eat the cookie cause it's good form. And whenever he eats the cookie.
Nicki Minaj, good form 2018, ça va Hortense Bellotte? Vous êtes en bonne forme aussi, hein?
En pleine forme, et ça va très bien, je suis très heureuse d'être là avec Marine Kiziel et Claire Barbillon. J'avais envie d'un truc léger. Pour répondre à Rodin ce dimanche midi, entre la Chandeleur et Mardi Gras, je suis donc allée manger une crêpe à Montmartre, lorsqu'une voix m'a dit, tu sais, l'histoire.
C'est un drôle de combat, mais pour le gagner, tu as le choix. Des armes
la musique ou les fleurs, l'ironie, le rire ou le cœur, ou le charme.
Et c'est l'option charme qui m'a tenté aujourd'hui pour cette chronique à deux voix en duo avec la statue de Dalida, installée en 1997 pour orner la place qui porte son nom. Le buste fait maintenant l'objet d'une étrange dévotion qui consiste à lui lustrer les seins pour avoir de la chance. J'ai demandé à Dalida ce qu'elle en pensait et elle m'a répondu.
Ma vie n'est pas vraiment ma vie, elle est à ceux qui m'ont choisi à leur manière. En laissant mon nom dans les rues, j'ai mis mon bonheur par-dessus, à ma manière.
Le langage des statues, c'est un petit peu poétique, il faut s'habituer. Moi, j'aime bien les informations concrètes, donc je suis allée voir la bio du sculpteur, tout simplement, Aslan, connu pour ses pin-up érotiques et qui se revendiquait comme le peintre des camionneurs. Poète poète, ça explique peut-être cela. Puis, j'ai lu aussi qu'il avait commencé comme sculpteur de l'armée française, avec un buste du maréchal Delattre de Tassigny, un du président américain Eisenhower, dont le mandat sera marqué par les affaires Rosa Parks et Little Rock, un buste de Brigitte Bardot en Marianne, puis de Mireille Mathieu en Marianne, puis de Charles de Gaulle peint en Marianne, et un de Félix Éboué, commandé par la Guadeloupe. Wow, 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 ça commençait à faire beaucoup d'informations problématiques, tout ça. Alors la statue, il va falloir que tu sois un petit peu plus clair et que tu nous expliques ta chanson.
Dans cette chanson que j'ai dit, je veux vivre libre et sans loi, bien sûr, ça paraît un peu antisocial, parce que la loi, c'est quand même très social, et il le faut, parce que finalement, c'est l'interdit qui crée la civilisation. Mais pour moi, la liberté, disons, on voit beaucoup, c'est marqué partout, liberté, les hommes politiques en parlent, dans les journaux, enfin partout. Mais en ce qui, pour moi, la liberté, la plus importante, c'est l'homme libre.
L'homme libre, mais oui. Merci Dali. Souvenez-vous, en 2020, à Paris, quelques jours après un hommage à Adama Traoré, on tague « négrophobie d'État » sur la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale en raison de son implication dans la traite et le code noir. À croire qu'avec le temps, tout ne s'en va pas. À Fort-de-France, en Martinique, on détruit la statue de Joséphine de Beauharnais, partisane du lobby des planteurs lors du rétablissement de l'esclavage sous Napoléon. Érigée au XIXe siècle, elle avait été déplacée en 1974 par le maire Aimé Césaire, puis décapitée par des activistes en 91. En 2022, s'est érigée à Paris un monument à l'effigie de la Guadeloupéenne Solitude, ancienne esclave pendue en 1802 pour avoir lutté contre ce même rétablissement. Avec le temps, parfois, tout va quand même un peu mieux.
Si je me suis battue debout contre les ombres et cachée dans la nuit pour étouffer ma voix, des bravos et des larmes seront ma récompense pour un rideau qui tombe et notre qui se lève. Demain et dans 1000 ans, je recommencerai.
En 2021, la violence coloniale dans l'espace public faisait l'objet d'un ouvrage publié aux éditions Shed par Sumboy, qui a donné un documentaire en ligne et gratuit sur la chaîne d'Histoire Crépue que vous irez voir. Il y est question notamment du monument à la gloire de la mission Marchand, qui fit des milliers de morts, mais qui est situé innocemment devant le palais de la Porte Dorée. Et si la statue en pied du militaire a été explosée en 83 par des militants, le bas-relief, lui, est toujours là. Et il serait quand même temps d'acter la rupture et de lui dire clairement les choses parce que...
Parce que tu es faux comme un tableau que l'on maquille. Parce que rire avec toi m'est vraiment impossible. Et parce qu'au jour le jour tes sentiments vacillent. C'est vrai, je ne t'aime plus.
Bon, Dalida, toi, évidemment, on t'aimera toujours, surtout moi, d'autant que tu fais partie des rares femmes réelles présentes en sculpture dans l'espace public parisien, avec entre autres George Sand et 5 Jeanne d'Arc. Réelles car sinon, ce sont soit des cariatides, dont Agnès Varda a fait un film court que nous projetterons le 10 avril au Majestic Bastille dans une lecture croisée avec l'œuvre de Sarah Maldoror, soit des femmes lampadaires ou des femmes fontaines. Pour reprendre l'expression de Christelle Snitter, je vous jure que ce n'est pas de moi. Les autres sont des allégories, comme la République de Dalou, place de la Nation. plus photogénique que celle de la place de la République, qui n'a pas de sein à l'air et qui se prête moins aux reconstitutions spontanées de tableaux vivants, comme celle de la photo de presse de Martin Argiroglou, où la liberté d'expression guidait le peuple en janvier 2015. On y voyait les manifestants chevauchant le lion, allégorie du suffrage universel. Image plus si allégorique d'ailleurs depuis l'été dernier, depuis que la rue a maintenant aussi peu d'impact que l'isoloir. Le constat est dur, mais force est de constater quand même que oui, on en est un peu arrivé là. Et les manifs pour l'instant n'y changent rien.
Traverser des nuits et des jours sans sommeil pour en arriver là. J'ai eu chaud sous la pluie et froid en plein soleil pour en arriver là. J'ai parlé à la peur et fait taire le silence. J'ai maquillé les heures, j'ai vendu des dimanches pour en arriver là.
Et en lisant le numéro de la revue Esprit consacré au patrimoine contesté en 2022, je me suis dit que le véritable ennemi des statues, ça n'était pas le vandalisme, mais peut-être l'iconoclasme d'État, celui qui n'altère pas mais qui nie, qui efface par des processus concertés, comme la fonte de 2000 statues sous le régime de Vichy, qui a fait oublier par exemple les crocodiles de la République ou Maria de Rheim. Autant dire que nos petits déboulonnages à côté, c'est de l'animation du patrimoine. Par désespoir, j'aimerais parfois crier « Dalida, sauve-nous !» Mais pour être honnête...
Je ne suis pas vraiment attachée aux objets, je les aime, quand je les aime, je les achète. Mais je ne suis pas de celles qui disent que les objets peut-être ont une âme, je crois qu'ils ont l'âme que nous mettons dans les objets. Voilà.
Dans le culte des images, avant l'iconoclasme, traduit en français en 2019, Kitzinger nous rappelle les fondements de la culture européenne depuis l'époque byzantine, et notre manière de faire civilisation par le bas, par des pratiques dévotionnelles choisies. Comme amener de vraies fleurs sur la statue manquante de la femme du soldat inconnu, coller son chewing-gum sur l'arbre à côté du buste volé de Jim Morrison, embrasser à pleines lèvres la pierre tombale vitrée d'Oscar Wilde, lustrer la braguette de Victor Noir ou les seins de Dalida en attendant le grand soir, et continuer à cracher sur les tombes des assassins. Car en ce mois de carnaval, tout est permis, et mieux vaut la haine que l'indifférence, et à Mardi Gras, l'hiver s'en va. Ciao, ciao.
Merci Hortense Belotte. J'ai l'impression que ça vous a plu quand Dalida a dit « Je ne suis pas de celles qui disent que peut-être les objets ont une âme, je crois qu'ils ont l'âme que nous mettons dans les objets. Hein. » C'est ça, Marine Kiesel.
Ça m'a beaucoup plu, et puis ce qui m'a plu, c'est cette chronique extraordinaire qui est comme une synthèse explosive, qui va tellement plus loin que tout ce qu'on vient de dire, qui ouvre encore, et à tout ce XXe siècle, et à notre présent, qu'il faut ouvrir, je crois, sur ce passé, à regarder, à resignifier, à réinterroger, à faire tomber, et puis peut-être à participer de construire.
C'est aussi ce que vous pensez, Claire Barbillon?
Oui, bien sûr, c'est une très belle chronique et vous donnez un souffle à nos petits propos un peu terre à terre. La seule chose que j'aurais éventuellement, pour vous taquiner, à vous reprocher, c'est que, comme les autres, vous ne citez pas les sculpteurs. Et que ma chère Joséphine de Beauharnais, de tout à l'heure, a perdu son Vital Dubray. Et que cela, évidemment, eh bien, pour une historienne de la sculpture, c'est un petit regret.
Allez,
mais
Hortense...
je ne vous en veux pas.
Hortense Belotte, vous avez quoi 20 secondes pour répondre.
C'est plus. Mais elle l'avait donné, je crois, celui.
Non, moi j'ai commencé par le sculpteur de Dalida que je ne connaissais pas et dont l'improbable carrière m'a quand même un petit peu hallucinée.
Rassurez-vous, je ne le connaissais pas non plus.
Mais mon Dieu, mais quand même, c'est la même personne qui a fait les Marianne et les pin-up.
Oui, oui, mais on le connaît en fait.
Et de Gaulle, et en fait tout le monde le connaît.
Tout le monde le connaît.
En fait, tout le monde le connaît.
Tout le monde le connaît, mais on ne l'a pas identifié.
Exactement. Et
bien vous êtes là pour ça aussi, Hortense Belotte, pour nous informer.
Et nous, pour faire lever la tête vers les statues, et moins peut-être par révérence que pour les réinterroger.
Eh bien, merci à vous trois, Marine Kiesel, Claire Barbillon et Hortense Belotte. C'était Allons-y voir. Les références de vos livres, vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son Noé Chaban et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.